Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, je voudrais ce matin méditer avec vous sur un sujet important, la vérité. Donc notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a dit dans l'Évangile, « Je suis la voie, la vérité et la vie ». Nous connaissons cette vérité. Nous connaissons notre Seigneur Jésus-Christ, oh, parfaitement, sans doute pas, car nous ne connaîtrons jamais suffisamment notre Seigneur Jésus-Christ. Mais plus encore que la connaissance de Jésus-Christ, ou de la vérité, ce qui est synonyme, il faut aller plus loin. Il faut non seulement connaître Jésus-Christ, mais aimer Jésus-Christ. La connaissance ne suffit pas de la vérité. Il faut aimer la vérité. Dans le bulletin Scutum Fidei, vous trouverez en quatrième page de ce modeste bulletin un texte remarquable d'un auteur du XIXe siècle, Ernest Hello, qui a écrit un livre que je vous recommande, vais-je dire le mot, chaudement. Oui, chaudement, profondément. C'est un livre qui réchauffe l'âme et qui, à travers ces mots extraordinaires qu'il a écrits, n'alourdisse pas l'âme, au contraire, l'allège, la rafraîchisse. Donc je vous propose cette lecture rafraîchissante. Loin de déchauffer les neurones, ils vont rafraîchir non seulement l'esprit, mais l'âme, l'âme tout entière. L'amour de la vérité. Je glane à travers ce que je vais vous dire. Je ne parlerai pas que d'Ernest Hello, mais encore d'autres textes. Donc je vais picorer, un peu comme l'abeille qui butine de fleur en fleur pour en faire un miel, un nectar exquis. Les mots, dit-il, sont du pain ou du poison. C'est un caractère de notre époque, il parle du XIXe siècle. Que dirait-il en 2026? Oh, la même chose, mais avec des mots peut-être encore plus forts. Donc c'est un des mots caractères de notre époque que la confusion universelle. La confusion universelle. On peut faire, avec ces signes du langage, des instruments redoutables par leur complaisance. On peut faire d'eux l'abus qu'on veut en faire. Ils se laissent déshonorer. L'altération des paroles ne se révèle que par le trouble intime qu'elles produisent dans les choses. La corruption des meilleurs est la pire. C'est un adage latin. Optimi corruptio pessima. Plus ce nom est beau, plus il est terrible. Et s'il se tourne contre la vérité, armé de la puissance qu'il a reçue pour la vie, quel service ne rendra-t-il pas à la mort? Or, on tourne le nom de la charité contre la lumière. La lumière, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Toutes les fois qu'au lieu d'écraser l'erreur, on pactise avec elle, sous prétexte de ménager les hommes. C'est le libéralisme dont le XIXe siècle fut très largement l'apanage, hélas, de tant d'hommes. Heureusement, dans ce XIXe siècle, il y eut des hommes courageux, foncièrement amoureux de la vérité, donc de notre Seigneur Jésus-Christ, pour dénoncer l'erreur et les fauteurs d'erreur. Donc on pactise avec elle, sous prétexte de ménager les hommes. On tourne le nom de la charité contre la lumière, toutes les fois qu'on se sert de lui pour faiblir l'exécration du mal. Il faut exécrer le mal, la haine du mal. Et par la suite, il va commenter un peu, un verset d'un psaume, donc de David. Psaume 97. Vous tous, disait David, inspirés par le bon Dieu. Les psaumes sont sous inspiration divine. Vous tous qui aimez le Seigneur, haïssez le mal. Donc à la fois, il y a l'amour et la haine. L'amour de la vérité de Dieu, la haine du mal, tout en aimant le pécheur. Toute la vie de Jésus-Christ nous manifeste cette double réalité, l'amour de la vérité. Notre Seigneur Jésus-Christ, plus que quiconque, aime son Père, se donne pour son Père, se livre à son Père sur la croix pour nous, pauvres pécheurs. C'est le sacrifice du calvaire. Et en même temps, la haine du mal, la haine de l'erreur, la haine du péché, l'amour du pécheur. Bien sûr, notre Seigneur Jésus-Christ, dans toute sa vie, aime le pécheur. Il va chercher le pécheur, la brebis égarée, le fils prodigue, Madeleine, le bon larron, Pierre, même Judas, pour qui il aura un dernier mot, mon ami. Mais Judas va refuser. Jésus n'aime pas le péché de Judas, mais il aime Judas. Vous tous qui aimez le Seigneur, haïssez le mal. Le jour où le mal, continue Ernest Hello, le jour où le mal est entré dans le monde, il est né quelque chose d'irréconciliable. La charité, l'amour envers Dieu exige, suppose, implique, ordonne. Quatre verbes. Exige, suppose, implique, ordonne. Quoi donc ? La haine envers l'ennemi de Dieu. Donc le démon. Celui, comme cette phrase que je vais prononcer, est d'une actualité incroyable. Celui qui transige avec l'erreur, celui-là ne connaît pas l'amour dans sa plénitude et dans sa force souveraine. Faisons un examen personnel de conscience. À chaque fois qu'on a transigé avec l'erreur, on a méconnu l'amour, le véritable amour de Dieu, dans sa plénitude, dans sa force souveraine. Après une longue guerre, quand on n'en peut plus, quand la fatigue amène la ressemblance de l'apaisement, on a souvent vu les rois lassés de combattre, se céder les uns aux autres, telle ou telle place forte. Ce sont là des concessions qui fournissent des moyens d'en finir avec le canon. Mais on ne traite pas des vérités comme on traite des places fortes. Quand il s'agit de faire la paix, en esprit et en vérité, c'est la conversion qu'il faut, et non l'accommodement. La justice est tout entière ce qu'elle est. Eh bien, chers frères, si je vous lis ces belles paroles, ce n'est pas pour meubler un sermon que je n'aurais pas eu le temps de préparer. Non. Ces mots sont en rapport avec l'actualité actuelle. En 90, Monseigneur Lefebvre, après les sacres, quelques mois avant de mourir, écrira son ultime message, itinéraire spirituel. Je cite, « Il est impératif pour tout prêtre qui souhaite demeurer catholique de se séparer de l'Église conciliaire jusqu'à ce qu'elle soit revenue au magistère traditionnel de l'Église et la foi catholique. » C'est Monseigneur Lefebvre, notre grand archevêque, qui a écrit ces paroles. Pourquoi les a-t-il écrites ? C'est après les sacres de 88. Il a fait vraiment ce qu'il pensait devoir faire vis-à-vis de Rome. mais il a vu que Rome était foncièrement moderniste, sourde aux appels catholiques qu'il fit en 87, 86, 87, 88. Pour les plus jeunes, c'est l'histoire ancienne. Pour les plus anciens, on a vécu ces moments-là. J'étais séminariste à l'époque, troisième, quatrième année de séminaire. On a vécu ces choses-là aux côtés du Monseigneur Lefebvre, qui nous parlait de cet homme néo-moderniste, cet homme conciliaire. Dans le dernier article qu'il a écrit pour Fidélitaire, février-mars 91, il meurt le 25 mars. Qu'écrit-il ? Mes bons amis m'ont dit que j'étais allé trop loin avec Rome. Quoi qu'il en soit, personne ne pourra dire que j'ai fait mon possible. Mais maintenant, si d'aventure je dois encore parler avec Rome, ce n'est pas Rome qui m'imposera ses conditions, mais moi. Quel orgueil ! Comment prétend-il imposer ses conditions à Rome ? Non, ce n'est pas l'orgueil, c'est la vérité. Il était soumis à la vérité. On ne fait pas la vérité, on est soumis à la vérité. La vérité, c'est Jésus-Christ. C'est un ordre objectif qui ne dépend pas de moi, mais dont je dépends. L'objet, le sujet par rapport à l'objet, l'objectivité. Il disait, vous à Rome, vous avez 30 ans d'existence depuis le Concile Vatican II. Rajoutez 40 ans, il faut actualiser. Moi, Marcel Lefebvre, j'ai 2000 ans. Quelle différence ! Moi, je ne suis rien. Mais le bagage des 2000 ans de catholicité, quel poids ! 2000 ans, 30 ans. Faites la balance. 30 ans de chavirement complet, de revirement abyssal. Paul VI, en 68, à l'ONU, dira ceci. Nous, plus que quiconque, avons le culte de l'homme. Ah bon ? Ben, je crois qu'il faut avoir le culte de Dieu et pas de l'homme. Qu'est-ce que l'homme ? Qu'est-ce que l'homme ? Peu de choses, surtout avec son péché originel, purifié par le baptême, mais il reste toutes les vicissitudes liées à cette faute originelle, les fragilités d'une nature abîmée. Abîmée. Certainement, et ce que je vais dire n'est pas le fruit de mon imagination, certainement, si Monseigneur Lefebvre avait dû sacrer encore, il n'aurait rien demandé à Rome. Pourquoi dis-je ceci ? Parce que, un mois après la mort de Monseigneur Lefebvre, il y a eu le décès de Monseigneur Lodi Castelmayer, 25 avril 91. En juillet 91, les quatre évêques, jeunes à l'époque, de la fraternité Saint-Pie-X, se déplacent au Brésil pour sacrer un évêque qui remplacera Monseigneur Lodi Castelmayer, Monseigneur Rangel, qui a consacré ce nouvel évêque. Trois des évêques de la fraternité. Monseigneur Tissé de Malraix, sacré, assisté comme premier évêque de Monseigneur Johnson, comme deuxième évêque Monseigneur de Galaretta. Monseigneur Follet était présent, ainsi que l'abbé Schemberger et beaucoup de prêtres. Qu'ont-ils fait par rapport à Rome ? Rien. Ils n'ont pas demandé. Ils n'ont pas demandé. Ils ont fait. Ils ont fait. Eh bien, chers frères, sans doute, nous avons de quoi nous réjouir que la fraternité ait opéré il y a une semaine. On est le 12, donc il y a 11 jours. Cette consécration de quatre évêques, Mais jusqu'à la veille, les Pagliarani a écrit au pape pour demander le mandat pontifical. Ce que je dis, je ne l'invente pas. Entre février et le 30 juin, j'ai lu tout ce que la fraternité écrivait. Pourquoi ? Pour critiquer ? Non. Pour savoir l'état d'esprit dans lequel ces sacres seraient faits. Ils sont faits. Le motif répété à deux reprises par M. le Pagliarani en février à la Martinerie, à l'université d'hiver, des jeunes, donc à la Martinerie, et la veille des sacres, sont des motifs d'ordre psychologique. Nous vous demandons, très Saint-Père, de comprendre la demande que nous faisons, de comprendre. La Pagliarani s'arrête là, il ne va pas plus loin. À aucun moment, il dit, très Saint-Père, il faut vous convertir. On demande que vous compreniez nos raisons. On n'a plus que deux évêques, deux sont décédés. Un a été renvoyé, il n'en parle pas, l'autre est décédé il y a un an et demi. Il ne reste plus que deux évêques qui ont pratiquement 70 ans, ils sont usés. Il ne le dit pas, mais on peut le comprendre. Et c'est vrai, au bout de 40 ans d'épiscopat pratiquement, les deux qui restent, ils sont vraiment fatigués. Ils ont fait le monde entier en voiture, je ne dis pas à cheval, en avion. Ils ont parcouru le monde dans tous les sens, dans tous les sens. Ils sont usés. Donc il faut, on peut le comprendre, des évêques. Ce n'est pas le point que nous relevons. Le point que nous relevons, c'est le point de vue psychologique. Comprenez notre besoin. Il y a une grande différence entre comprenez le besoin qu'on a et puis convertissez-vous. Convertissez-vous. Monseigneur Lefebvre demandait la conversion de Rome. Durant des années, on a prié pour la conversion de Rome. Et il semble que cette conversion de Rome soit maintenant une chose tellement impossible, lunaire, qu'on ne le demande même plus. Mais comprenez le besoin. J'insiste, mes chers frères, pour essayer de vous faire comprendre, car c'est compliqué. Car c'est compliqué. Et bien des personnes, depuis 12 jours, nous disent, mais vous, minuscule et ridicule fidélité ou résistance catholique, etc., pourquoi ne revenez-vous pas à Écône, à la fraternité de Saint-Pédis? Il y a beaucoup de choses qui nous y opposent. Non pas les sacres, mais le fond, le soubassement de toute la politique durant des années, la fraternité Saint-Pédis. En 2006, chapitre général, où est réélu pour 12 ans Mgr Fellet. La fraternité établit un principe pour l'avenir. Pas d'accord pratique sans accord doctrinal. Donc on met la doctrine sur un piédestal, la vérité. La connaissance de la vérité, l'amour de la vérité. Donc pas d'accord pratique sans accord doctrinal. 6 ans plus tard, 2012, accord pratique. Et ce qui s'est passé, à partir de 2012, ont été des accords pratiques, sans accord doctrinal. Des paliers. Le mot n'est pas de moi, mais d'un commun accord entre Mgr Fellet et deux assistants, l'abbé Flugger, l'abbé Nelly, et puis Mgr Pozzo, qui était secrétaire à l'époque, d'Église ADI et de deux assistants. Et le 14 septembre 2012, ils signent, nous avons fait des accords pratiques. Et ça s'est déroulé ainsi. 2015, les confessions avec la juridiction. Tout prêtre peut confesser avec la juridiction ordinaire. Je rappelle, c'est une petite histoire. Et quand on vieillit, on raconte des histoires. Il y a des signes comme ça qui ne trompent pas. Un prêtre, peu de temps après 2015, m'a dit « Ah, enfin, je vais confesser de façon légitime. » Alors là, je suis tombé par terre pratiquement. J'ai fait des grands yeux. « Comment, monsieur l'abbé, jusqu'à présent, vous confessiez de façon illégitime ?» Non, moi, je n'ai pas de souci à ce sujet-là. J'ai confessé depuis mon ordination de façon légitime, eu égard à la crise dans laquelle l'Église se trouve. Et à nécessité, bien des âmes, salut des âmes. Il était soulagé. Il aurait dû ne pas confesser avant. 2015 également, les prêtres qui étaient donc suspens à Divinis, puisque depuis 1976, Monseigneur Lefebvre est suspens à Divinis, et tous les prêtres qui sont ordonnés sont validement ordonnés, mais suspens à Divinis, c'est-à-dire qu'on ne peut rien faire. Ni messe, ni sacrement. Il y a une interdiction romaine par Paul VI. Tout simplement parce que Monseigneur, à l'époque, il y a 50 ans tout juste, a refusé de célébrer la messe nouvelle, suspens à Divinis. À partir de 2015, il n'y a plus de suspense. Plus de suspense. 2017, les mariages. La délégation des mariages. On disait, je me rappelle très bien, M. Bouchacourt, qui était à l'époque super district en France, disait, oh, c'est très bien tout cela, ça va sécuriser les mariages. Les sécuriser. Pensez donc. 10 ans ont passé pratiquement. Est-ce que les mariages ont été sécurisés? Que de divorces? Et Rome ne soutient rien du tout. Rien du tout. Rien du tout. Maintenant, évidemment, toutes ces facultés sont toutes perdues. On ne peut plus confesser, on ne peut plus marier, on ne peut rien faire. Même le cardinal Fernandez va extrêmement loin. Il est repris par le cardinal Müller, qui s'oppose l'un et l'autre, l'un contre l'autre. Le cardinal Fernandez dit, à partir du 2 juillet, 1er juillet, mais la sentence de l'excommunication est le 2 juillet, donc il y a 10 jours, eh bien, tous ces prêtres, Fraternité Saint-Pédis, ne peuvent plus confesser, c'est invalide. Et les mariages sont invalides. Donc le cardinal Müller, tant s'en fout, il n'est pas vraiment catholique. Quand il était préfet pour la foi, il niait la virginité perpétuelle de Notre-Dame. Bon, peut-être il s'est repris depuis. Maintenant, il fait figure de traditionnaliste. Comme quoi, tout est relatif. Mais il a repris cardinal Fernandez en disant non, non, non. Les sacrements donnés par la Fraternité Saint-Pédis sont valides, mais illicites. Donc il reprend le préfet du dicastère. Donc deux cardinaux qui s'opposent sur un sujet quand même très sérieux. Voyez l'état dans lequel on est. L'amour de la vérité. L'amour de la vérité. C'est tellement important. On ne se bat pas pour des queues de cerises, mes bien chers frères, et pour des choses sérieuses. Il est urgent de réfléchir. Nous sommes dans un monde où on s'informe. Alors d'Internet, on ne lit plus, on s'informe. Qui encore de nos jours a des livres, des vrais livres? Vous savez, autrefois il y avait des livres avec les feuilles qu'on tourne. Vous avez tous compris. Maintenant, ça n'existe plus. On a un écran d'ordinateur et puis on va lire. En diagonale, on n'a rien lu, on s'informe, on ne se forme pas. Eh bien, chers frères, il faut nous former, pas nous informer. L'information est suicidaire. La formation, c'est pour la vérité. Une bonne formation philosophique, théologique, le catéchisme, la formation, c'est capital. La formation. Je vous recommande vivement la lecture, l'acquisition des ouvrages. Ils sont à présent 4 ouvrages Et il y aura d'autres ouvrages. Tout ce que Mgr Williamson a écrit, les commentaires et les Eason, j'ai encore quelques exemplaires au fond de ma chapelle. Lisez, formez-vous, formez-vous. En deux pages et demie, cet évêque qui m'a ordonné, Dieu merci, je prie tous les jours pour lui, pour le repos de son âme, et le remerciant de m'avoir imposé les mains en 90. Cet évêque a voulu former les âmes, les intelligences. Donc en deux pages et demie, il résume un sujet et donne la solution. Il avait ce talent, Mgr Williamson. Professeur né, toute sa vie, il a été professeur. Avant sa conversion de l'anglicanisme, après sa conversion, il a toujours enseigné. Pourquoi ? Pour éclairer les intelligences, les former à la vérité et à l'amour de la vérité. À l'amour de la vérité. Ça n'a pas plu à tout le monde. C'est pour cela qu'il a été retranché de la société à laquelle il appartenait. Il a continué néanmoins à propager cette vérité coûte que coûte jusqu'à son dernier souffle. Eh bien, chers frères, aimons la vérité. L'abbé Radot, c'est volontaire. Ça, ce n'est pas un signe de sénilité. C'est un signe d'enseignement. Il faut aimer la vérité. Connaître la vérité, aimer la vérité, vivre pour la vérité, et s'il le faut, mourir pour la vérité. Notre Seigneur Jésus-Christ, en Saint Jean, chapitre 7, et je termine par cette petite phrase, nous dit ceci, « La vérité vous rendra libre, ainsi soit-il. » Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.